ce matin, on aimerait maintenant accueillir au téléphone le directeur général de la division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, pour discuter un peu la situation en ce moment dans les écoles. Bon matin, Alain.
Bon matin, Caroline.
On a quand même toutes sortes de sujets à discuter, juste pour commencer là le tout, parce qu'on a appris il y a déjà quelques jours qu'il y a eu quand même, par exemple, des éclosions qui ont été terminées dans certaines écoles, comme au Collège Louis-Riel, par exemple. Puis ça, c'est des bonnes nouvelles de votre côté.
Ce sont d'excellentes nouvelles. Ça fait quand même un bout de temps qu'on le savait, mais la santé voulait l'annoncer et prendre plus de temps que passé pour s'assurer qu'il n'y avait vraiment plus d'éclosions. Et pour rassurer nos parents, quand on parle d'éclosion, on parle pas de 40, 50 élèves, on parle de 6 ou 7 élèves dans une de nos écoles et une douzaine, quinzaine, incluant le personnel dans une autre école. Alors, lorsqu'on fait le pourcentage, c'est bien peu, mais nous sommes très heureux.
Oui, tout à fait. Maintenant, cela dit, on sait qu'il y a aussi quand même des situations où il y a des écoles qui sont en code rouge, par exemple, comme Saint-Joachim, qui est à la Broquerie. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment à cause de son emplacement dans la région de Steinbach, où on a vu un taux de positivité très élevé.
Exact. Alors, présentement, l'école, nous n'avons pas de cas, mais nous devons suivre les directives du ministère de la Santé qui indique que vous tombez en code rouge. Donc, seuls des enfants dont les parents sont des travailleurs essentiels peuvent fréquenter l'école.
Est-ce qu'on sait comment ça se déroule de leur côté, maintenant que ça fait déjà quelques jours qu'ils sont en code rouge, ou quelques semaines même? Est-ce qu'ils se débrouillent bien?
Oui, c'est une bonne question. Alors, tous les jours, nous sommes en contact avec les directions d'école de l'école Saint-Joachim pour vérifier. Nous avons près de 90 élèves dans l'école présentement, donc de travailleurs essentiels sur près de 400 habituellement. Donc, je dirais qu'on a entre 20 et 25 d'élèves présents. Les élèves sont à la maison, continuent de recevoir une éducation selon les exigences du ministère de l'Éducation. Alors, jusqu'à présent, je pense que les gens apprécient, tout en sachant que c'est une pandémie. On doit tous faire notre part.
Oui, tout à fait. Et bien sûr, la grande nouvelle aussi qu'on a appris récemment, là, venant de la province de notre ministre de l'Éducation, M. Gertsen, c'est qu'après les vacances de Noël, on demande à tous les élèves de la 7e à la 12e année de passer à l'apprentissage à distance pendant 2 semaines, alors du 4 décembre au 15 décembre, mais que ça reste une option pour les élèves de la maternelle à la 6e. Ils disent que ça a été une décision en consultation avec les responsables de la santé publique, mais côté des divisions scolaires, comment a été la réaction pour vous autres par rapport à ça? Est-ce que ça a été quand même une surprise ou vous attendez à ce que ça arrive?
Depuis le mois d'août, nous sommes préparés à ce code rouge-là ou à cette éventualité-là, parce que c'est pas un code rouge pour cet exemple-là, mais on s'y attendait. Nous n'avons pas nécessairement été consultés, pour être honnête, là. Mm-hmm. Mais on s'y attendait. Il y a encore des détails qui ne sont pas connus. On a des grandes lignes, là. Oui, on sait que les maternelles à 6 vont être présentielles si le parent le décide. Donc, ça nous prend un autre sondage. Malheureusement, pour nos parents, ça va être le troisième sondage qu'ils vont remplir en moins d'un mois et demi, mais c'est essentiel pour nous pour organiser les salles de classe. 7 à 12, est-ce qu'on demande l'éducation complète ou est-ce qu'on demande de simplement s'en tenir à quelques cours de base? Il faut comprendre que pour les 9 à 12 janvier, c'est le dernier mois de leur semestre, dernier moment pour accumuler des notes. Alors, si le ministère indique que éducation physique n'est pas une matière qu'on doit enseigner au mois de janvier. Qu'est-ce qui arrive avec la note? Qu'est-ce qui arrive avec le bulletin? Qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignant d'éducation physique? Est-ce qu'on le rapatrie pour le mettre dans une autre classe? Est-ce qu'on le met en classe virtuelle? Alors, il y a encore beaucoup de questions sans réponse, mais nous sommes prêts autant qu'on puisse l'être. Et aujourd'hui, on va communiquer justement aux parents là, pour leur indiquer la position de la DSFM puis les prochaines étapes.
Oui, ce serait intéressant de savoir aussi que pensent les parents qui doivent maintenant, ceux qui se sentent obligés de laisser les enfants à la maison, mais peut-être les parents aussi qui ont des enfants plus jeunes, qui sont dans l'âge entre maternelle et 6e année, qui ont cette option-là. Je veux dire, il y a tellement de choses à prendre en considération, puis pour les enseignants aussi, ça doit être un défi. Trouver du personnel supplémentaire? Est-ce que, pour l'instant, on pense que c'est juste les mêmes enseignants qui vont devoir prendre cette charge en classe et en ligne?
C'est toutes des bonnes questions et on veut éviter la surcharge. Nous savons déjà que nos employés, je mets l'emphase sur tous les employés là, parce que j'avais une discussion avec un concierge il y a à peine un mois qui m'indiquait que lorsqu'il y avait un code déclaré dans son école, il l'avait pris très personnel parce qu'il se disait, est-ce que c'est parce que j'ai pas bien fait mon travail de nettoyage? Est-ce que cette personne-là avait à cœur la santé de tous ses élèves-là, comme si c'était ses enfants? Nos enseignants qui sont débordés, nos auxiliaires à qui on demande énormément. Nous, ce qu'on demande au ministère de l'Éducation, c'est d'avoir plus de clarté, plus de compréhension de leur part que du personnel francophone qualifié. Il y en a plus. Et que nous sommes toujours en attente de savoir ce qui va se passer avec cette fameuse annonce-là d'il y a une semaine et demie là, d'un dépositoire académique qu'on va pouvoir accéder pour aider nos enseignants. Mais on n'a pas encore su si les documents seraient autant en français qu'en anglais. On sait qu'ils vont en avoir en français, mais est-ce que c'est quelque chose d'utile pour nous? Alors, on nage parfois un peu dans l'inconnu, puis je ne blâme pas personne parce que je crois que même au niveau du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé, eux aussi doivent composer avec plusieurs facteurs inconnus.
Oui, non, mais tout à fait. Et avec tous ces changements qui viennent, je veux dire, côté financement, on sait que on a eu toutes sortes de déficits ici et là avec maintenant cette annonce-là. Comment est-ce que ça va vous affecter de ce côté?
Mais on continue de remettre nos rapports mensuellement au ministère de l'Éducation pour leur indiquer combien se chiffre un peu la dette de la division scolaire franco-méditerranéenne si on continue dans cette lignée-là. Si on se souvient, en mars dernier, on avait mis des employés à pied parce que, bon, ça avait été officialisé que l'école, là, c'était pratiquement terminé. Là, dans le moment, on continue et les notes sont là, donc on garde tous nos employés et nous, on a embauché 160 auxiliaires de plus qu'on le fait habituellement. Habituellement, on en a près de 200. Là, on a ajouté 160, donc c'est énorme. On a ajouté 50 enseignants de plus. C'est énorme, ça aussi, sur un budget, mais on en a besoin. Mais si on en a besoin jusqu'au mois de juin, on s'attend à avoir un déficit d'environ 8 millions de dollars à la division scolaire.
Waouh, c'est énorme.
C'est énorme. Oui.
Est-ce que vous vous attendez à de l'aide, Alain?
Ben, on sait qu'il y a de l'argent, on sait que de l'aide va arriver. C'est qu'encore une fois, il y a des détails qui soit m'échappent parce qu'il manque des données. Mais on n'a pas eu encore une fois de réponse claire à savoir est-ce que tous ces frais engagés-là vont être repayés ou est-ce qu'on va être obligé d'utiliser, comme on dit en bon français, notre marge de crédit.
Ouh!
Ouais! Ça, c'est pas facile. Mais on espère que le tout va vraiment bien quand même se dérouler pour les élèves et les enseignants. On n'a pas précisé si la période d'apprentissage à distance va dépasser les 2 semaines. Mais si c'est le cas, comment vous allez vous débrouiller comme ça?
C'est une autre question. On n'a pas de réponse. On sait que c'est 15 jours minimum. Si la population, puis c'est un contrat social, je veux dire, c'est pas les écoles, mais si tout le monde fait la fête jusqu'au 3 janvier, puis on sait qu'il y a des grandes familles au Manitoba, on sait qu'il y a des gens qui veulent se voir, puis on comprend ça, mais si on revient puis au 14 janvier, après la période de 10 jours d'incubation, on s'aperçoit que dans les écoles, il y a autant de cas qui éclos, on va avoir un sérieux problème. Hier, c'est des chiffres qui sont pas nécessairement toujours connus, mais il y avait plus de 325 écoles qui avaient des cas au niveau du Manitoba.
Wow.
Ça passe un peu sous le tapis, mais c'est 325 écoles, que ce soit un ou deux cas dans une école. Alors, si on revient avec ces mêmes chiffres-là au mois de janvier, nous comprenons que les enfants doivent être à l'école. C'est le meilleur endroit pour eux d'être. Mais on a un contrat social avec la communauté qui nous dit que ces enfants-là sont aussi parfois asymptomatiques, mais transmetteurs. Est-ce qu'on fait du bien? Est-ce qu'on aurait besoin de repartir sur une glace neuve et d'attendre 2 semaines, que tout le monde ferme pendant 2 semaines, qu'on puisse repartir l'économie par la suite? Ce sont toutes des questions qu'on se pose et qu'on pose au gouvernement.
J'imagine que l'arrivée potentielle d'un vaccin, ça rassure un peu quand même, non?
Oui, ça rassure le fait de savoir qu'en moins de 9 mois, les scientifiques du monde ont pu travailler ensemble puis développer un vaccin. Les questions qu'on se pose, c'est que c'est pas un vaccin qui va enlever le COVID, mais c'est un vaccin qui va le prévenir. Il y a encore du travail à faire. Pour moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas biologiste. Mais ce qu'on entend, c'est que c'est une excellente nouvelle, mais que ça ne sera pas nécessairement quelque chose qui va avoir un impact sur notre année scolaire, du moins celle qui termine en juin.
On a parlé à la province hier de tests rapides pour les enseignants. Est-ce que tu as une opinion, toi, à ce sujet-là?
Je veux dire, les tests rapides vont permettre de déceler plus rapidement les cas positifs, négatifs. Ce que ça fait, c'est que dans le moment, si un enseignant ou un membre du personnel, un élève doit se présenter et avoir un test, ben, ça peut être 10 jours avant qu'il y ait un résultat. Mm-hmm. Et il y a une certaine frustration chez les gens lorsqu'ils apprennent que c'était négatif. Il y a une positiviste de ne pas avoir le COVID, mais c'est quand même 10 journées de maladie qu'ils ont perdu dans leur banque de maladies. C'est 10 journées d'école que l'enfant a perdu. Donc, oui, si le traçage peut aller plus rapidement et le testage peut aller plus rapidement, ça va être un peu plus. Moi, je vois toujours la situation d'une façon globale. J'ai des amis qui travaillent dans les centres de santé pour personnes âgées qui voudraient qu'eux aussi aient ce genre de rapidement avoir un test fait pour les gens pour assurer que nos aînés puissent vivre dans des environnements qui sont aussi sains que possible. Et on dit probablement la même chose là, au niveau des corps policiers, des pompiers, des services essentiels. Tous ces gens-là espèrent avoir, à un moment donné, un moyen plus rapide d'obtenir des résultats.
Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Alain Laberge, de prendre le temps ce matin de nous expliquer un peu la situation présente dans les écoles. Et puis, bon courage à tout le monde, vraiment, pour les temps à venir. Et puis, on espère avoir plus de clarté venant de notre gouvernement par rapport à toutes les questions dans lesquelles on n'a pas encore toutes les réponses.
Merci, Caroline. Merci, Jacques. Continuez votre bon travail. Écoutez la radio, ça fait des fois, ça nous fait oublier un petit peu nos soucis. Écoutez, justement, comme les Montgolfières qui ont joué juste avant mon entrevue, ça remet parfois un peu un sourire de dire « Hey, c'est nos élèves, c'est notre futur, c'est bon. Commençons la journée du bon pied. Le virus va être là à midi, on ne se le cachera pas, mais pensons à d'autres choses. » Puis un gros merci à tous les employés de la DSFM et à tous nos parents, là, qui sont derrière nous et qui continuent à travailler avec nous. C'est très apprécié.